Bonsoir. Les bureaux d'action et d'éveil culturel à l'éducation bac en cible dénoncent un système éducatif en RDC qui ne permet plus aux enfants d'accéder à une bonne éducation. Dans une réflexion ce week-end, le coordonnateur de cette ONG affirme que cette question conduit à la perte de plus en plus visible de la valeur du diplôme d'État obtenu actuellement par les élèves. Un jugement très sévère selon le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Quelle analyse faire du système éducatif en RDC? Nous en parlons avec Jean-Marie Cantumé, il est promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC en sigle, et il est aussi ministre et député honoraire. Bonsoir, M. Jean-Marie Cantumé.
Bonsoir.
Jovin Moukadi, il est conseiller chargé de la coopération internationale et de la coordination des partenaires techniques et financiers au ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. Bonsoir, Jovin Moukadi.
Bonsoir, Monsieur Jovin.
Et lui, il est au téléphone, le professeur Félix Foukoussala, il est docteur en sciences de l'éducation, il est enseignant à l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle. Bonsoir, professeur Félix Foukoussala.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation dénonce un système éducatif en RDC qui ne permet plus aux enfants d'une certaine classe sociale d'avoir accès à une bonne éducation, instruction et formation. BAC arrive donc à cette conclusion après une semaine de réflexions sur les examens de fin des cycles primaires et secondaires. Pour le promoteur de cette ONG, Jean-Marie Tantoumeï, cette question conduit à la perte de plus en plus visible de la valeur du diplôme d'État obtenu actuellement par les élèves. Il n'hésite pas de qualifier cette situation de génocide intellectuel. Tantoumé, il est dit au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Le BAC interpelle les dirigeants afin que le plus tôt possible, il puisse y avoir une réflexion qui aboutirait au changement de la qualité de l'enseignement à l'école primaire secondaire et surtout à la manière de contrôler les connaissances. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le test de fin d'études primaires et les diplômes d'État donnés aux finalistes n'attestent rien parce que sur 10 diplômés d'État, à peine 2 savent lire et écrire. Sur 10 élèves qui terminent l'école maternelle et primaires, encore moins qu'ils savent lire et écrire, parce que l'école de bonne éducation, de bonne instruction, de bonne formation n'est plus à la portée de la bourse du paysan, du fonctionnaire, du policier, du militaire et même de l'enseignant qui, lui, forme les enfants des autres. Ce n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, l'enseignement semble comme à un génocide intellectuel des enfants d'une certaine classe. Tout le monde le sait, mais tout le monde se tait.
En réaction, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté juge très sévère la sentence du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, tout en reconnaissant qu'il y a certains problèmes de qualité dans l'éducation des élèves. Maker Mwangu affirme avoir lancé déjà les quinquennats de la qualité comme stratégie pour essayer d'améliorer les systèmes éducatifs en RDC. On le suit au micro d'Innocent Olenga.
Moi, je pense par contre qu'ils sont très sévères vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que c'est pas vrai que sur les 10 élèves qui terminent l'examen d'État, il n'y a que 3 qui savent écrire. C'est très fort. Ceci étant, les diplômes, c'est une présomption de connaissance. Donc, vous ne pouvez pas vous attaquer aux effets au lieu de s'attaquer aux causes. Ce qui est important, c'est que même si, alors, vous supprimez les diplômes d'État, tant que vous n'avez pas résolu le problème de la formation, vous n'avez pas résolu le problème. Et nous, dans notre stratégie, nous avons dit, en ce qui concerne la qualité, nous avons lancé les quinquennats de la qualité. Nous sommes en train d'examiner tous les problèmes qui concourent à l'amélioration de la qualité. Qu'est-ce que nous devons faire vis-à-vis de l'enseignant par rapport à son recrutement, sa formation, les matériels didactiques? Qu'est-ce que nous faisons vers les élèves? Comment ils doivent se comporter ainsi que les parents? Donc tous ceux qui concourent au fonctionnement de l'école, comment nous devons nous mettre ensemble pour que nous améliorions la qualité de notre enseignement? Il ne faut pas être très sévère parce que ces mêmes diplômes, dans certains pays en dehors de nos frontières, les gens sont quand même contents de ce qui se fait au pays.
Jean-Marie Tintoumé, je rappelle que vous êtes promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC en sigle. Vous êtes aussi ministre et député honoraire. Vous dénoncez un système éducatif qui ne permet plus aux enfants d'une certaine classe sociale d'avoir accès à une bonne éducation, instruction et formation. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Je voudrais dire que la bonne volonté, les bonnes intentions du gouvernement ne sont pas justifiées sur le terrain. On parle de l'éducation gratuite, alors que les écoles où l'éducation n'est même pas gratuite, où les feux scolaires sont à la portée d'une certaine classe sociale que j'ai énumérée, dans ces écoles, l'enseignement est au rabais. Pour avoir un bon enseignement, une bonne éducation, il faut aller dans les écoles où les feux scolaires sont exorbitants. D'où les enfants d'une certaine classe sociale ne peuvent pas accéder dans des écoles maternelles, primaires, surtout, et plus secondaires, parce que l'enseignant qui enseigne les enfants des autres n'a pas les moyens de mettre son enfant dans une bonne école maternelle et primaire. Nous disons que c'est une discrimination et qui empêche l'État d'accomplir sa décision qui est dans la constitution d'une école maternelle et primaire gratuite. Aussi, nous disons, tout cela est connu de tout le monde. J'ai pris part à tous les forums des fins d'année qu'on appelle promotion scolaire organisée par les PSP. Tout le monde le sait, mais chaque année, on répète la même chose. Et cette situation, je précise, n'a pas commencé aujourd'hui. Mais elle va de mal en pis. C'est depuis avant la CNS. Le livre de notre frère qui est décédé d'Angoulou, Les enfants de Mobutu de Papa Wemba, l'atteste. Le livre du feu révérend Pérékoua, L'école trahie, l'atteste. C'est une situation qui date, mais elle va de mal en pis. Nous souhaiterions, au lieu de parler à travers les médias, qu'il y ait une rencontre où l'autorité, le gouvernement réunit tous les partenaires sous sa présidence, les parents, les enseignants, les PTF et nous autres pour voir exactement ce qu'il faut proposer. L'une des propositions, c'est que il ne faut pas que l'enseignement soit financé par les parents. L'une des causes, c'est la prise en charge de l'enseignant par les parents. Et cette situation, le BAC l'avait dénoncé dès le départ quand nous étions pendant la conférence nationale souveraine. Il y a beaucoup de causes. Les enseignants non motivés parce que les écoles où les feux scolaires sont élevés, les enseignants sont bien motivés. Et c'est autrement. Malheureusement, ces écoles sont 30% sur le 100. C'est ça que nous regrettons, c'est que l'État a abandonné l'éducation, surtout l'éducation entre les mains des parents. Or, l'éducation, si aujourd'hui je parle, c'est parce que j'ai été bien formé. Mes parents étaient des paysans, ils sont morts. Mais aujourd'hui, les enfants des paysans ne pourront pas être comme Tantoumé. C'est ce que je regrette. Et le BAC dénonce.
Alors, donc, vous voulez dire que vous fustigez ou vous attribuez, n'est-ce pas, la baisse de la qualité de l'enseignement au seul fait que les enseignants sont pris en charge par les parents?
Oui. Dans certaines écoles où les frais de prise en charge des parents ne sont pas au montant qu'il faut, les enseignants sabotent le cours. Ils sont irréguliers. Il n'y a pas de contrôle. Dans les écoles où il y a une prise en charge assez élevée, l'enseignement est bien donné. Ce sont notamment les écoles des catholiques, notamment des pères jésuites, certaines écoles privées, que je ne voudrais pas citer. Mais les écoles, surtout maternelles et primaires de l'État, mon cher frère, aucun enfant là-bas, pas aucun, 30, il n'y a que 30% qui ont la capacité de lire et écrire.
Voilà, sur 10 diplômés d'État, à peine 2 savent lire et écrire. D'où vous tirez ces chiffres?
Nous avons fait cette investigation depuis plusieurs années. D'abord, le BAC est toujours intervenu sur la question de l'enseignement. Nous avons des coupures de presse dans les dossiers envoyés au Premier ministre et au ministre de l'Enseignement Premier, son chef de l'État. Le BAC se préoccupe de cette question depuis des années. Nous avons réfléchi avec d'autres partenaires de l'éducation.
Et les chiffres, vous les tirez d'où?
Nous les tirons des enquêtes que nous avons menées et nous voudrions dire, où que vous soyez, à part nos enquêtes, vous n'avez qu'à appeler dans votre quartier 10 diplômés d'État, interrogez-les en français ou à Lingala, dites-leur d'écrire, vous verrez combien ils pourront écrire. Ce test est facile à réaliser pourtant, dans votre quartier.
Pourtant, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire estime que votre jugement est trop sévère. Et il affirme que le diplôme que vous semblez décrier ici, ces diplômes sont appréciés à l'étranger.
Le ministre ne nous a pas contredit. Peut-être que dans le degré, notre jugement est trop sévère, je lui concède, et heureusement qu'il reconnaît notre jugement, mais du point de vue proportion, le nôtre serait trop sévère. Oui, il y a des enfants très bien formés, qui sont admis à l'extérieur, mais ce sont justement des enfants de ces 30% d'école où il y a un très bon enseignement. Les écoles des jésuites, des religieuses et des écoles privées, et même à l'Athénée de la Gombe, c'est un enseignement de bonne qualité. Il y a 30% d'enfants qui sont admissibles dans de bonnes universités ici au pays et à l'extérieur. Et 60% vont à l'université pour passer le temps. Ils sont incompétents.
Pourquoi vous qualifiez cette situation de génocide intellectuel? Vous pensez que c'est fait à dessein?
Et ce génocide... Qui est le génocidaire? Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les parents. Il y a des élèves. Il y a des parents qui refusent que son enfant reprenne des classes. Ah, qu'est-ce que c'est? Bon, ça y est. Là, les mecs foutent en bongo. Il y a aussi les élèves eux-mêmes qui refusent le génocide. Nous le disons. Pourquoi? Parce que, mais quand vous donnez à quelqu'un un diplôme, alors qu'il en est incapable de faire quelque chose, mais tous ces coulounas qui peuplent nos quartiers, ils ont été à l'école. C'est un génocide intellectuel. Mais les génocidaires se retrouvent aussi bien parmi les dirigeants, les parents, que les élèves,
donc,
les apprenants.
Les responsabilités sont partagées.
Sont partagées.
Monsieur Jovin Moukadi, conseiller chargé de la coopération internationale et de la coordination des partenaires techniques et financiers au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, sur 10 diplômés d'État, à peine 2 savent lire et écrire. Et réagissant à cette réflexion, le ministre Makaire Mwangu a jugé très sévère ces différentes conclusions contenues dans cette réflexion.
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté, pour la parole. Je crois que c'est que Monsieur Tantoumeï est en train d'avancer. Vous lui avez posé la question plusieurs fois de savoir d'où il tire ces chiffres.
Il dit qu'ils ont mené des enquêtes.
Ils ont mené des enquêtes. En quelle année? Comment ils les ont fait? Quelle méthodologie ils ont utilisée? Quand ils les ont publiées? Qui les a validées? Cela n'engage que lui. De toutes les façons, je crois qu'aujourd'hui, le système éducatif congolais est sur une voie tracée par la stratégie de développement du sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'un plan intérimaire de l'éducation qui a fait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui participe d'ailleurs à plusieurs conférences internationales où nous traitons des mêmes problèmes, on a donné l'accès jusque-là à l'accès dans le domaine de l'éducation sur le plan international. C'est la République démocratique du Congo également qui fait partie de cette communauté internationale. Aujourd'hui, nous parlons de la qualité. Donc, le système éducatif congolais a subi les effets du programme d'ajustement structurel pendant plusieurs années. Et c'est seulement en 2008... Et qu'il a été posé le premier diagnostic de notre système éducatif
la politique d'ajustement structurel, on en parle depuis la décennie 80.
Mais les effets en RDC, il a parlé de la prise en charge de l'éducation par les parents après la conférence nationale souveraine, justement parce que l'État s'était peu à peu désengagé du système éducatif.
Et il continue à se désengager jusqu'aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, nous avons, s'il vous plaît, les parents ne cesseront jamais de payer.
Pourquoi?
Parce que il faut savoir qu'est-ce que les parents prennent en charge. Vous n'allez pas me dire que dans les pays développés, les parents ne prennent pas en charge l'éducation de leurs enfants. Vous n'allez pas me le dire. Moi, je viens... J'ai des frères, lui aussi a des frères qui habitent la France, qui habitent les États-Unis, la Belgique et autres.
Voilà, mais, ils mais peuvent, combien vous demandez à ses parents,
s'il vous plaît,
à ses parents
la gratuité de l'enseignement,
pour que son enfant puisse aller étudier.
Je crois que vous allez me laisser parler si vous
parlez,
souvenez
ce qui. Parlez.
Vous avez donné la parole à. Vous soutenez la position de M. Tantoumeï. Laissez-moi parler, s'il vous plaît.
Non, vous avez la parole.
Je crois que. Dire que les parents ne supporteront jamais l'éducation de leurs enfants, je crois que ça c'est une fausseté. La gratuité de l'enseignement, telle que définie par la Constitution, on lui a donné une définition par rapport aux frais directs. Ce n'est pas à l'État d'acheter les souliers de l'enfant, d'acheter le minimum, la tenue de l'enfant. Je crois que ça, personne ne n'y accorde de l'importance et pourtant c'est à tout part de là.
En fait,
ensuite,
Jovin,
s'il vous plaît,
Jovin,
il
ne
faut, pas,
est
il
au
faut
niveau...
pas qu'on fasse de la l'amalgame dans ce que nous sommes en train de dire.
Je ne sais pas si vous avez bien suivi, M. Tantoumeï, il a dit que la baisse de l'enseignement est due au fait que les enseignants sont pris en charge
le diagnostic
par,
qu'il a
par
fait,
les parents.
Le diagnostic que je suis en train de vous dire, nous devons parler en tant que scientifiques. Éviter des déclarations pompeuses pour attirer je ne sais pas quelle
voilà, même les scientifiques
s'il vous plaît,
se battent sur les faits
2008,
aujourd'hui.
2008,
combien
2008,
les parents payent
2008,
à l'école pour que les enfants puissent étudier. Les faits,
s'il
c'est
vous plaît. Aujourd'hui, la dernière étude que nous avons faite, c'est avec CITAN, la situation des enfants et de la femme. Nous avions fait le RESEN, les rapports de l'État de l'éducation en République démocratique du Congo. Je ne refuse pas que les parents ne prennent pas en charge l'éducation des enfants. Ils étaient à 75% il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes à 67%. Lisez le RESEN 2014, vous aurez les résultats. Par rapport à la qualité, je crois qu'aujourd'hui, la RDC participe aux analyses faites dans le cadre de la conférence des ministres en charge de l'éducation des pays francophones, la CONFEMEN. Nous sommes à la deuxième évaluation. Et cette évaluation, quoi qu'on dise, ne classe pas les 10 pays qui sont dans la situation de la République démocratique du Congo, les élèves de la RDC en dernière position.
Monsieur Jovin, revenons
s'il vous plaît,
parce que vous avez voulu que l'on analyse scientifiquement, n'est-ce pas, la question.
Je vous donne les preuves, je vous donne des éléments.
Qu'est-ce que les parents aujourd'hui payent? Et
je vous ai dit
pas.
Que c'est 67%.
Ils
participent à 67% dans l'éducation des enfants.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup et je crois que nous sommes partis d'un système qui ne mobilisait que 1% de la part du budget dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à 16%. Et entre-temps, nous avons un stock important d'enseignants qui demeure impayé. Le gouvernement fait un effort chaque année pour éponger. Faut pas rire, Monsieur Tantoumeï. J'ai dit des choses sérieuses.
Vous avez la parole, Monsieur
Jovin. J'ai dit des choses sérieuses. C'est-à-dire que chaque année, par rapport au budget de l'État, nous sommes en train de payer des enseignants pour arriver à éponger cette ardoise. Et je crois, mais je m'excuse, Monsieur Tantoumeï, vous l'avez dit, il était ministre honoraire. Je ne sais pas à son époque, il était toujours président.
Alors, vous dites que vous payez, les enseignants, vous dites que vous payez régulièrement les enseignants, mais pourquoi? Parce que vous payez régulièrement les enseignants, vous ne pouvez pas demander
pas
aux parents.
La régularité de la paye, elle est là.
Okay.
Parce que,
mais pourquoi des fois,
on
a demandé aux parents de ne plus
prendre
en charge les enseignants?
Pays,
parce que vous, l'État,
dans
vous payez
pays, il y a 15 ans, l'enseignant ne percevait pas un salaire chaque mois. Il y a des coins où ça se passait même 7 mois.
Merci.
Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Je crois que nous avons dépassé la période d'urgence. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer parce que aujourd'hui, nous avons un plan intérimaire de l'éducation qui a fait un diagnostic plus scientifique que les déclarations de M. Tantoumeï et de son ONG. Parce que nous avons un plan intérimaire de l'éducation qui a fait un diagnostic et qui a proposé des mesures pertinentes.
Merci, je vous donne la parole.
Et s'il ne l'a pas, je crois que je veux le lui donner parce qu'il participe à plusieurs activités organisées dans le cadre du ministère de l'enseignement.
Professeur Félix Sekou Sala, vous êtes docteur en sciences de l'éducation, vous enseignez à l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle, 2 diplômés d'État sur 10 savent lire et écrire. Comment vous analysez cette réflexion émise par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation?
Bien, merci beaucoup monsieur le journaliste. Je pense que 2 diplômés sur 10 savent lire, peut-être écrire. Je crois que, comme le conseiller a dit, il faudra vérifier les informations comme il faut. Mais bon, cela ne tienne, je pense que c'est une réalité. Cette réalité, nous sommes à l'université, nous avons la même situation, les élèves qui quittent l'école primaire, qui montent au secondaire pour obtenir le diplôme d'État, quand ils arrivent à l'université, c'est ce que nous constatons, mais je ne voudrais pas rester sur les effets. Moi, je pense qu'il y a un problème lié plus à la précarité des conditions d'enseignement. Je voudrais rappeler d'abord que le vrai pouvoir relève de l'État. La définition des objectifs de l'action éducative reste d'abord la prérogative absolue de l'État congolais. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire n'est qu'un organe de l'exécution de la politique éducative dans ses sous-secteurs. Je pense qu'il faudra redéfinir les objectifs assignés à cette politique éducative. Je vais rapidement citer simplement. Vous avez d'abord sur le plan humaniste. Peut-être vous allez me demander d'aller dans les détails. Quand je dis les objectifs humanistes, c'est-à-dire la politique éducative devrait normalement donner ses privilèges de transformer l'apprenant pour lui-même d'abord, en lui transmettant des connaissances et des savoirs. C'est-à-dire former quelqu'un qui sait développer ses capacités à réfléchir, à saisir et à comprendre, à créer et à évaluer. Bon, le problème lié à la lecture, je crois que c'est un problème, on doit absolument le résoudre sur le plan de l'approche systémique. Parce que j'ai entendu monsieur le conseiller parler de scientifiques. Je crois qu'il faut réfléchir davantage sur cette question. Le deuxième objectif pour la politique éducative, c'est les objectifs sociopolitiques. C'est-à-dire intégrer l'homme dans sa communauté. C'est-à-dire former des hommes et des femmes conscients de leur appartenance à une nation et à la société congolaise. Et puis, les objectifs économiques de l'action éducative, j'insiste sur ça parce que c'est vraiment le problème qui part de là. Alors, les objectifs économiques, je pense, c'est aussi le privilège d'ouvrir l'école aux préoccupations économiques. C'est là où je voudrais appuyer Excellence Tantoumé, qui parle de la perte de vitesse, la perte de valeur marchande de diplôme d'État. Il va falloir, je crois, revoir les objectifs économiques de l'action éducative par rapport aux préoccupations économiques. Et enfin, les objectifs professionnels. Là, il s'agit de développer un certain nombre de compétences chez les apprenants, en ce qui concerne l'amour au travail productif et au choix d'une profession, au lieu de faire des apprenants consommateurs plutôt que des apprenants producteurs. Alors, je voudrais revenir sur le 2/10. Ça, c'est une question qui nécessite qu'on puisse identifier les symptômes réels du système éducatif congolais. Prenons l'exemple lorsque on chasse les apprenants à l'école, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au secondaire, que ce soit au niveau supérieur. Mais au niveau de l'école secondaire, puisque nous parlons de 2/10, lorsque les enfants sont chassés et qu'ils doivent régulariser leur situation après, vous pensez qu'il y aura un enseignant qui va revenir à la charge pour essayer de récupérer ce qui a été perdu du point de vue transmission de la matière? Non, je ne crois pas. Donc, je voudrais dire ceci, il va falloir supprimer un certain nombre de symptômes, tels que l'exclusion de certains enfants, évidemment, comme dit Excellence Tantoumé, de certains parents démunis, affaiblis économiquement, à l'exclusion, l'exclusion de ces enfants à l'instruction. Ça, je pense qu'il faudra que le ministère puisse faire un effort pour gérer un peu ces problèmes de contrôle, de paiement, de frais de scolarité, qui en fait favorisent justement le risque d'atterrir sur ces statistiques de chiffres comme 2 sur 10. Et puis les conditions, la précarité des conditions d'enseignement. Je ne crois pas que même si on formait les enseignants et que ces enseignants sont versés dans la précarité des conditions d'enseignement, on aura toujours le même problème. Alors je voudrais saluer quand même les efforts qui sont faits par le ministère, l'ancien conseil des manuels scolaires, peut-être d'autres matériels pédagogiques. Mais là encore, est-ce que ces manuels scolaires et ces matériels pédagogiques sont adaptés par rapport aux conditions d'enseignement? Est-ce que l'enseignant est prêt à utiliser le même manuel qui est soumis, n'est-ce pas, à l'exécution?
Merci.
Pour transmettre justement la matière à l'apprenant?
Merci.
Voilà, je m'arrête un peu là. On va continuer.
Merci, M. Tantoumaï. Nous allons prendre des illustrations pour essayer, n'est-ce pas, de continuer dans cette analyse. Nous allons écouter au micro d'Étienne Kalema, ces enfants qui étudient dans une école du camp Lufungula, ici à Kinshasa.
Notre ami s'inspire sur Malingala, un peu français, exprime un peu Angala, mais ça ne fait pas bien dans l'école. Si un député qui venait dans notre école, il nous coûte des élèves, on parle Lingala, ça ne va pas faire bien.
Pour moi, je veux dire qu'on nous a voir le monsieur ici, parce que nous ne parlons pas français, nous parlons seulement Lingala, nous tous, et les secondaires. C'est pas bien. On nous envoie le monsieur parce qu'on nous arrange les bancs, les écoles, ça va bien.
Les enfants de notre école ici, là, en train même de micro-rêver même le français, c'est conseil pour essayer même de parler français. On demande l'aide.
Toujours au micro d'Étienne Kalema, les enfants de l'école chrétienne à Gombe, ici à Kinshasa.
Il y a d'autres enfants qui n'étudient pas, ils sont dans la rue. Il y a d'autres qui n'ont même pas des parents, la famille des parents les ont chassés. Vous voyez que c'est pas leur droit.
Et moi je pense que les Congolais ils sont déjà grands, on ne peut pas leur montrer ceci parce que quand ils étaient petits, il fallait qu'on leur montre ça, c'est la faute de ses parents.
Il y a des enfants qui ont des parents et les parents leur ont donné de la chance d'aller à l'école pour apprendre.
Les enfants ne sont pas égaux parce que il y a des enfants, on les a donné un bon endroit, ils peuvent bien étudier, ils peuvent tout faire, vont devenir des bons gens dans la l'avenir.
Voilà, M. Tantoumaï, ça c'est des enfants qui évoluent dans deux écoles primaires, et des écoles différentes, hein, l'une au camp Kokolo, ici à Kinshasa, et l'autre est à Gombe, dans la commune de la Gombe, ici, toujours dans la ville de Kinshasa.
Je pense que leur expression vient de confirmer notre thèse du bac. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent assez bien parler et d'autres pas. Et le problème est que notre pays à l'extérieur est apprécié, certes. Mais c'est parce qu'il y a des parents dont les enfants sont bien formés. Il y en a qui le sont. Mais la majorité d'enfants, la majorité des Congolais, sa bourse ne permet pas d'accéder à cette école où l'enfant peut apprendre à lire et écrire dans une école primaire. Et si l'enfant ne sait pas lire et écrire dans la langue d'enseignement, comment peut-il comprendre le cours qui est transmis dans cette langue? C'est un problème réel. Nous tous, nous le savons. Même le ministère le sait. Je voudrais que le Premier ministre, à qui le bac a écrit, avec une copie pour information au chef de l'État, au président de l'Assemblée du Sénat, à l'UNESCO, à l'UNICEF, à tout le monde, asseyons-nous dans une salle, sans télévision, sans médias, sincèrement, reconnaissons qu'il y a des choses à faire. L'État ne peut pas confier l'éducation maternelle et primaire à la charge des parents. Chaque enfant doit être éduqué et formé, au moins au supérieur, on peut demander aux parents d'intervenir. Mais sinon, il y a des enfants qui n'auront jamais la bonne éducation, parce que les parents n'ont pas les moyens. Donc, je voudrais vraiment que l'État prenne en charge l'école maternelle et primaire. Que ces écoles ne soient pas seulement l'apanage des privés qui sont des opérateurs, parfois économiques, sans notion pédagogique, qui ne voient que l'argent.
Merci, M. Jovin Moukadi. Une brève réaction par rapport aux enfants qui venaient de parler.
Bon, nous disons que les défis dans le système éducatif congolais, il y en a. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui un plan intérimaire de l'éducation que nous mettons en œuvre, plutôt que de ressasser sans cesse le problème que nous avons. Nous avons fait un diagnostic, nous connaissons cette situation depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre ce plan pour justement changer la situation de notre système éducatif. Arriver à une éducation qui donne de la connaissance, qui donne des compétences aux enfants, parce que il n'y a pas que le problème d'accès, il y a le problème de la qualité. Je crois que dans l'intervention de son Excellence Monsieur le Ministre Macaire, vous avez suivi que nous venions de lancer les quinquennats de la qualité. Et je crois, quand nous parlons des rencontres que sollicite Monsieur Tantoumeï, les rencontres que nous en avons, nous avons plusieurs structures de rencontres.
Voilà,
prochainement, s'il vous plaît, prochainement, nous aurons un forum sur la qualité de l'enseignement. Justement, pour lever un certain nombre de mesures qui permettent à ce que nous puissions aller de l'avant.
Voilà, il y a des auditeurs qui ont réagi. Hein. Nous allons prendre pour vous, M. Jovin, cette réaction qui vient des Bukavu Sud-Kivu.
Amos Bissima du PCP à partir de la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu. Peut-on encore parler aujourd'hui du système éducatif en RDC où un diplômé d'ESSIS est incapable de conjuguer même le verbe aller au présent de l'indicatif? Depuis que ce dernier a été abandonné à son triste sort par le gouvernement, l'éducation est devenue du business. On trouve actuellement partout au pays une seule maison est à la fois bar, église, école, mais aussi l'argent, les sectes, voire les favoritismes deviennent l'exigence pour réussir à cause de la prime que les parents payent en dépit de la misère qui va s'emplir au pays. Tout ceci au vu et aussi de nos autorités qui négligent ce secteur car elles font étudier leurs enfants en Europe dans de meilleures conditions.
Voilà. Brève réaction, M. Jovin.
Je crois que, je l'ai dit, le système éducatif congolais, c'est un système qui est basé sur le principe de partenariat. Partenariat, ce qui signifie quoi? Les parents sont censés être une partie prenante dans la gestion du système éducatif. C'est pourquoi nous avons des comités des parents. Aujourd'hui, il est constaté que les parents, bien sûr, les parents, c'est eux qui font que l'école ou les diplômes deviennent une marchandise. On enverrait l'enfant avec de l'argent, va m'acheter des arachides, c'est de la même manière qu'on l'envoie aller prendre un diplôme à l'école, on ne l'accompagne pas. On ne sait pas où il étudie, on ne sait pas qui est son enseignant.
Merci.
Et malgré l'existence des structures qui font que les parents participent à la gestion de l'école, vous allez voir que dans notre pays, très peu de parents participent à la gestion éducative.
Merci.
Et c'est là un des grands défis qu'il faudra relever.
Merci, professeur Félix Koukoussala. Nous avons une réaction. Une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi au Katanga.
Sylvain Kabanga à Lubumbashi. La baisse du niveau des finalistes du primaire tout comme du secondaire en République démocratique du Congo montre un paradoxe qui existe entre une réforme entreprise et les résultats obtenus. Les corollaires de ces deux concepts signifient que les objectifs du premier sont mal définis ou les agents qui sont destinés à les appliquer sont incompétent. Alors, il devient un pseudo-réforme qui a comme résultat baisse du niveau des élèves. La question de la rémunération des enseignants n'est qu'un faux fuyant, car l'amélioration modique de la paie des enseignants devrait augmenter moins significativement le niveau des enfants. Mais, sur terrain, la courbe décline toujours, avec une répétition au niveau universitaire.
Professeur Félix Koukoussala.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que celui qui vient d'intervenir a vraiment raison, mais je voudrais souligner ceci. Je voudrais répondre par une question. Est-ce que nous avons réellement un système éducatif dans notre pays? C'est ça aussi le problème. Il faudra revoir aussi l'historique ou l'histoire, si vous voulez, l'aspect historique du système éducatif. N'oubliez pas que nous sommes partis du système éducatif hérité, ce qui fait que c'est un héritage que nous étions obligés d'adapter au contexte. Mais quel est le contexte, puisque le contexte, c'est aussi le développement. Donc il y a un problème, déjà à ce niveau-là, Est-ce que nous sommes arrivés depuis plusieurs années à intégrer le plan général de l'enseignement dans le plan national de développement socio-économique? Ça aussi, une grande question. Alors, donc, au niveau de l'école primaire, aujourd'hui, s'il y a des problèmes, c'est parce qu'il existe encore des situations très très difficiles qui concernent, qui en fait affectent les acteurs de l'enseignement. Alors je dis les acteurs de l'enseignement, ce ne sont pas les parents. Là, je suis vraiment désolé, parce que les parents, hier, ce n'était pas en fait les parents qui intervenaient. Aujourd'hui, ce n'est même pas l'implication ni la participation, mais c'est la prise en charge des parents, la prise en charge des enseignants par les parents, pardon, et ce qui n'est pas une chose facile pour le gouvernement. Je crois que c'est là qu'il faut attaquer la chose en redéfinissant réellement quels sont les objectifs de tous les niveaux d'enseignement, c'est-à-dire les niveaux, je peux descendre au pré-primaire, maternelle d'abord, primaire et également secondaire, et on peut aller très loin, supérieur. Donc la question des acteurs de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignant lui-même, c'est pas seulement ça, mais aussi le directeur qui, dans sa gestion, dans son administration de l'école, pose aussi problème. Donc il faudra, je crois, former davantage tous les acteurs de l'enseignement, y compris les inspecteurs. Donc on commence d'abord par les inspecteurs, et ensuite les directeurs et les enseignants qui sont en fait les exécutants de l'action éducative. Merci. Sur le plan technique.
Merci. Que faut-il pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC? Monsieur Tantoumé, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient une fois de plus de Bukavu au sud Kivu.
Robert Bono de Bukavu au sud Kivu. Les constats faits par le bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation est fondé. Cependant, dire que le système éducatif de la RDC ne permet plus d'accéder à une bonne éducation serait trop dire. Je pense que plutôt que de se limiter seulement à critiquer de manière acerbe et sévère ce système éducatif, il serait aussi mieux que le bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation suggère ou propose concrètement au gouvernement des stratégies qui puissent lui permettre d'améliorer les dix systèmes. Ainsi faisant, sa contribution serait positive.
Qu'est-ce que vous proposez concrètement?
C'est très simple. Le BAC a, depuis une semaine, mis en place trois commissions. Une commission qui réfléchit sur la philosophie de l'éducation, une autre sur la politique de l'éducation, une autre sur la planification. Les propositions sont nombreuses. La première serait que l'État, le gouvernement, puisse augmenter le budget du ministère de l'Éducation nationale et que d'abord les mots EPSP disparaissent. Dans l'enseignement, il n'y a pas l'éducation. C'est très grave. Et ensuite, que le gouvernement donne un budget conséquent à ce ministère. Et le ministère devait nous appuyer, nous qui pouvons parler, parce que le ministre ne peut pas parfois dire certaines choses. Et ensuite, que surtout, l'école maternelle et primaire, qui est la base de la formation, puisse être effectivement gratuite, c'est-à-dire prise en charge par l'État. Que les parents ne donnent que les fournitures scolaires, l'uniforme, mais que les frais technique, tout cela soit pris en charge par l'État. Aujourd'hui, nous avons une pièce de théâtre, Tournabuso. L'école est devenue un commerce, un lieu de commerce. Tout se vend, tout s'achète. Même on impose aux parents d'acheter tout à l'école. Donc, l'une des solutions, école maternelle et primaire, totalement prise en charge par l'État, les enseignants bien motivés, comme il l'était à l'époque.
Merci.
Ce n'est qu'au secondaire que les parents peuvent intervenir pour appuyer. Non pas prendre en charge, mais donner une contribution au secondaire et à l'enseignement supérieur.
Merci. Que faut-il pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC, M. Jovin Moukadi? Vous avez suivi le professeur Félix Foukou-Sala qui a fait une série de propositions, notamment former davantage tous les acteurs de l'enseignement. Vous venez de suivre M. Tantoumey qui estime qu'il faut augmenter les budgets de l'enseignement. Qu'est-ce que vous proposez?
Je crois que je l'ai dit depuis le début, nous avons un plan d'action. C'est le plan intérimaire de l'éducation. Aujourd'hui, il faut mettre l'enseignant c'est la clé de voûte même du système éducatif. Vous connaissez que dans notre pays, le métier d'enseignant a cessé d'être attractif. C'est ainsi que nous recrutons. Le recrutement s'est fait n'importe comment. Ne viennent à l'enseignement que des gens qui n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Aujourd'hui, dans ce plan, ce que nous mettons en œuvre, c'est d'abord la formation continue des enseignants. Là-dedans, il y a la formation des inspecteurs ainsi que des conseillers pédagogiques. Nous sommes en train aujourd'hui de démarrer l'expérimentation de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour assurer une formation en plein emploi de nos enseignants à partir d'un certain nombre de modules de formation qui ont déjà été réalisés par un certain nombre d'experts et qui seront numérisés pour permettre à ce que nous puissions atteindre tous les enseignants. Il y a également la fourniture des manuels scolaires, je crois qu'on l'a dit. Et d'ici peu, je crois, nous espérons qu'à la rentrée scolaire prochaine, nous allons entamer la classe qu'on va appeler la classe pré-primaire, qui permettra à ce que les enfants qui n'ont pas accès à l'école maternelle puissent, dans une seule classe, ceux de 5 ans, être formés avant d'entamer le cycle primaire. Et il y a plusieurs actions qui sont notamment liées également à la motivation des enseignants. Vous savez, le gouvernement a déposé depuis peu une loi sur le statut de l'enseignant qui accompagne la nouvelle loi cadre de l'enseignement national qui a été promulguée le 11 février 2014. Et je l'ai dit, bientôt nous allons organiser un forum, le ministère de l'enseignement primaire organise un forum sur la qualité de l'enseignement. C'est pour aller dans un système qui permet à ce qu'on puisse relever les niveaux de notre enseignement.
Merci.
Voilà, donc il faut dire que c'est un thème suffisamment transversal et au même moment, nous sommes en train de renforcer le niveau de l'enseignement secondaire. Bientôt, on va démarrer un projet avec l'appui de la Banque mondiale pour justement rendre les écoles techniques et professionnelles suffisamment compétentes par rapport aux connaissances et aux compétences à donner aux finalistes des humanités techniques et professionnelles.
Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez conclure?
Je l'ai toujours dit devant ce micro, c'est que pour avoir de vraies informations sur ce qui est en train d'être fait, il faut venir au ministère. Nous avons plusieurs structures qui permettent aux partenaires éducatifs, sociétés civiles, comme les partenaires techniques et financiers, où nous nous retrouvons presque chaque mois pour échanger sur les systèmes éducatifs. Il ne sert à rien de tourner le couteau dans la plaie. Les défis sont déjà connus. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre, le gouvernement met en œuvre un plan intérimaire d'éducation qui est accompagné.
Est-ce que ce plan est réaliste?
Il est réaliste. Il est réaliste adaptées. Parce que aujourd'hui, si la RDC bénéficie de ressources extérieures, aujourd'hui, plus qu'avant dans le secteur de l'éducation et même au niveau national, c'est grâce à la mise en œuvre de ce plan-là. Merci. Vous pouvez augmenter le budget alloué au secteur de l'éducation, mais lorsque ce budget n'a pas des actions précises, ça ne servira à rien.
Oui, merci, Monsieur Tatoumeï, votre conclusion.
Oui, je voulais dire que, puisque personne n'oblige au gouvernement de donner le diplôme et le certificat aux élèves et écoliers incompétents, qu'on cesse de donner des diplômes à ceux qui ne les méritent pas. Personne n'oblige le gouvernement. Tout cela voudrait dire que nous sommes d'accord, tombés d'accord. Le BAC est prêt à prendre part à toutes les rencontres pour que le débat se déroule à huis clos entre partenaires éducatifs et dirigeants officiels. Disposés à ce débat, à cette rencontre, encore une fois, merci.
Professeur Félix Foukou-Sala, votre conclusion.
Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je voudrais dire ceci, avant de conclure rapidement, en ce qui concerne le diplôme, je voudrais pointer deux aspects. On doit nécessairement mettre l'accent sur la valeur pédagogique du diplôme, mais aussi sur la valeur marchande du diplôme. C'est là où se posent des problèmes. La valeur pédagogique, c'est le contenu. La valeur marchande, c'est pour permettre l'insertion professionnels, justement, du produit sorti du système.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Guy Manzangou, merci. Et c'est lui qui était à la technique. Merci aussi à Alain Hirung, Kéline Couté et Béry Franklin-Chala qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe. Devant ces micros, Guy Massé, merci et bon suite du programme sur Radio Capi.